Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
J'aimerais vous inviter à lire avec moi dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Verset 2 au verset 4. Éphésiens chapitre 6. Deuxième au quatrième verset. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Depuis maintenant 4 séances, nous parlons sur le thème. Une loi importante et négligée, la loi de l'honneur. Le dimanche passé, nous avons focalisé cet enseignement sur l'honneur que les enfants devaient aux parents. Nous avons fait part de conséquences heureuses et arrivés sont appelés à être des réalités comme des récompenses chaque fois que les parents seront honorés par les enfants. Et tant que cieux et terre seront là, ces mailles, moissons, ne cesseront jamais. Ça, c'est un principe. Veut dire que dans la vie, il y aura l'acte de s'aimer, et en retour, on va moissonner. J'ai en mémoire un merveilleux enseignement apporté par le pasteur Mbouma, il y a plusieurs mois. Combien nous avons été richement bénis. Semailles et moissons ne passeront jamais. Et l'apôtre Paul, venant plus tard, en Galates 6, versets 7 à 8, dira, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Il va plus loin. Et celui qui sème pour sa chair, moissonnera de sa chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et là, il montre que la qualité et la sémence influencent la qualité et la moisson. On ne peut pas semer une chose et moissonner son contraire. Combien quelquefois, les enfants n'arrivent pas à honorer les parents simplement parce que c'est une moisson. Parce qu'on avale celui qui aurait dû semer des choses, poser des actes, afin qu'en retour, cet enfant puisse l'honorer. Ne l'a pas fait. En Osée au chapitre 8, au verset 7, le prophète sous l'inspiration parle de la part de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, au verset 6, l'apôtre Paul touche maintenant l'aspect non seulement qualitatif, la relation sémence et moisson, mais aussi l'aspect quantitatif. Il dit, sachez-les. Une autre version dit, soyez au courant. Une autre version dit encore, ne vous leurrez pas. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est-à-dire la quantité c'est ce que je veux récolter en termes d'honneur, en termes de révérence, en termes de considération, dépendra aussi de la quantité en tant que parent. Je sais. Et l'apôtre dit, enfants, certes, honorez les parents. Les parents, n'irritez pas vos enfants. Il veut dire, c'est possible que les enfants ne vous honorent pas à cause de votre façon d'être et de faire. Il veut dire encore, c'est possible que vous puissiez vous-même faciliter la tâche à vos enfants en les aidant à vous donner en retour tout ce que vous voudriez avoir. Mais ce matin, alors que nous parlons de à la fois cet honneur que les enfants doivent aux parents, mais surtout ce que les parents sont appelés à faire vis-à-vis des enfants, pour moi, ce n'est les dividendes. J'ai trouvé bon qu'on se mette d'accord sur le terme parent. Qui est parent et qui ne l'est pas. Qui est père ou qui est mère qui doit être honoré ou véritablement honoré. Certains sûrement trouvent cette question inutile, mal placée, anachronique. Et pourtant, elle a toute sa raison d'être. À l'heure des manipulations génétiques, à l'heure du bébé éprouvette, à l'heure de mère porteuse, si on doit honorer un parent, qui est parent? Est-ce que c'est celui qui a donné les gènes ou c'est celle qui a porté l'enfant? Et on lui a payé même un salaire. Réalité peut-être pas très connue ici, mais en vogue ailleurs. Qui est véritablement parent? Alors qu'en Europe, aujourd'hui, il y a des banques de sperme. Ou quelqu'un qui ne sait pas mettre au monde peut aller de manière anonyme, il achète des spermes, on fait des choses en laboratoire, et un enfant est conçu. Qui doit être honoré? Le donneur inconnu de sperme ou l'acheteur? Qui est parent? Qui est véritablement parent à l'heure des enfants abandonnés, des enfants adoptés, des enfants niés par des jeunes gens et élevés par grand-mère qui a véritablement joué quasiment le rôle des parents suppléants? Qui doit être honoré? Celui qui avait engrossé et qui nie, et qui dit à cette jeune fille, oh, ben, ça n'a pas un gars. Ça rappelle Patrick, pour on est en gâte. Quelle histoire que nous connaissons. Il y a 4 ou 5 ans, j'ai vécu une histoire. Un jeune homme qui avait eu des rapports avec la bonne, travaillait chez eux, qui a nié. Et qui plus tard a appris, 26 ans après, et ce jeune homme était devenu conseiller quelque part. Il a ressurgi. Il est allé au bureau, il a dit à ce jeune homme, Tana Wanganaka, Tana Yongai. J'ai connu encore un autre cas, un autre qui a nié la grossesse. Et la jeune fille a porté le fardeau toute sa vie. Mais quand on est en train de confectionner la liste de ce qu'il faut payer pour la dot, il a ressurgi. Costume n'anglais angataire. Un père absent, un père démissionnaire, un père invisible, qui est parent et qui doit être honoré. À l'heure où les tuteurs, quelquefois, jouent mieux et plus le rôle des parents. À l'heure des filles qui jettent un bébé qu'elles viennent d'avoir, elle a joué au sexe, elle ne sait pas tenir cet enfant. Jette un enfant quelque part. Quelqu'un va ramasser. À l'heure où quelquefois de jeunes filles qui sont dans la prostitution, attrape une grossesse, permettez-moi les termes. Il laisse l'enfant grandir entre les mains des grands-mères, afin qu'elle, elle continue son boulot, entre guillemets. Elle n'est que génitrice. Elle n'a jamais véritablement joué le rôle. Qui doit être honoré? Est-ce les grands-parents? Ou les parents? Ou les géniteurs ou la génitrice? Il y a 2 ans en arrière, nous avons eu un séminaire ici sur la famille. J'ai relaté cette histoire que j'ai personnellement vécue. On était en train de faire la liste de la dot pour une jeune fille. Et on a dit, il faudra donner un pan super wax à maman. Cette jeune fille de 22 ans s'est levée et dit, 2 options. S'il y aura un seul pan, ce sera pour la bonne. Sinon, si on tient à honorer maman, alors il y en aura 2. Il dit, parce que biologiquement, ma mère, c'est elle, elle a montré sa maman. Mais elle dit, celle qui m'a accompagné toute la vie, c'est cette bonne, qui a quasiment grandi. C'est elle qui m'a appris, quand je suis devenu physiquement une jeune femme, comment gérer le flux de sang de chaque mois. Maman n'a jamais été là. C'est elle qui m'a appris à préparer. C'est elle qui m'a appris comment couper une poule. Je me l'ai demandé aux jeunes filles qui sont ici. Est-ce que vous avez vu au Kata Soso? Nana, vous avez vu au Kata Té? Tombola Moussa. Basé, belé. Maquillé. Habillé comme une reine. Ah, jeune fille, n'oubliez jamais. Mon pasteur me disait, l'amour passe par les ventres. Est-ce que Boulamba Foufou, ma pessu en mouvement baloli, Pondou, Ribe Boulamba, Kantita Mungwa, Matumbulo, Ndembi. Non, mon mari et moi, on va manger du shawarma. Et cette jeune fille dira, c'est cette bonne qui a tout fait. S'il doit y avoir un seul pain, c'est elle. Si on tient coûte que coûte à honorer ma génitrice, alors il doit y en avoir 2. La bonne ne peut pas manquer. Qui doit être honoré? Il y a déjà une vérité importante. C'est qu'être parent, c'est plus qu'être un géniteur ou une génitrice. C'est plus qu'avoir participé biologiquement à la conception et à la venue au monde d'un enfant. Ça va bien au-delà. J'ai lu ces 2 récits qui m'ont glacé. Certains l'ont connu. Un des meilleurs joueurs de basket aux États-Unis. Aujourd'hui, il s'est retiré. Il a joué à la belle époque avec Michael Jordan, Scottie Pippen. Il s'appelait Dennis Rodman. Il a joué dans Detroit. Il a joué à San Antonio. Il a joué à Chicago. Il a gagné 5 fois. Championnat des États-Unis. 2 fois avec Detroit, 3 fois avec Chicago. 2 années durant, il a été meilleur défenseur de la NBA. 7 ans durant, il a été meilleur rebondeur. En termes assez compliqués que je ne veux pas expliquer à tout le monde. J'ai pratiqué un peu de basket. Né en 61. Et quand il avait 3 ans, son père qui était un ivrogne a quitté la maison. C'était l'ancien vétéran du Vietnam. Et plus tard, il est devenu pilote dans l'armée américaine. Il battait sa mère et il n'était jamais là. Et quand le petit avait 3 ans, il a quitté la maison. Il est allé aux Philippines où il est resté autant d'années. Il a eu 27 enfants. Et 4 femmes différentes. Et quand ce jeune homme a eu 30 ans, il est devenu célèbre. Mais certains savent les salaires que les joueurs de NBA ont. Pas 2 millions de dollars le mois. D'autres, dont LeBron James, 18 millions. J'aimerais avoir des membres comme ça. On ne lancera même pas les enveloppes BNP. Et quand il est devenu riche, connu, un jour à la fin d'un match, alors qu'il sortait, quelqu'un lui a dit dans le garage, « Ton père te cherche. » Il a vu cet homme, il a dit, « J'ai vu le visage, je me suis retrouvé en lui. J'avais ses traits. » Mais il dit, « Entre nous deux, il y avait quelqu'un, mais je n'osais pas lui parler. » J'ai dit à celui qui m'a amené le message, « Je n'ai pas de père. » Où était-il depuis 30 ans? Où était-il quand je pleurais? Où était-il quand je rentrais à l'école et que les amis relataient les histoires et disaient, mon père a fait ceci et moi je n'avais pas d'histoire à relater? Où était-il quand j'étais malade et je courais moi-même? Et cet homme était à côté, il a dit, va dire à cet homme, c'est qu'on n'a pas sémé, on n'a pas le droit de les moissonner. Et pourtant l'homme était à côté, il ajouta encore, c'est pas parce que quelqu'un a biologiquement participé à ma venue au monde qu'il est mon père. Dis-lui que je n'ai pas de père. Qui doit être honoré? J'ai lu cette histoire de cet homme dont le père est mort quand il avait 3 mois plus tôt avant sa naissance. Et quand il avait 10 ans, sa mère s'est remariée à un médecin. Mais cet homme n'a pas mené aussi une très bonne vie. À un moment, il a perdu sa mère en tant que médecin. Il est devenu joueur de poker. Il a commencé à faire toutes sortes de choses. Mais quand il avait 15 ans, il a été adopté. Il a porté le nom de cet homme. Plus tard, il deviendra l'un des plus jeunes gouverneurs d'État aux États-Unis. Et à quasiment la quarantaine, il est devenu président. William Jefferson Clinton. Qu'on appelle communément Bill Clinton. Un jour, on lui posera la question, qui est ton père? Il dira, mon père, c'est ma mère. Il dit, parce que mon vrai géniteur, je ne l'ai pas connu. Il est mort 3 mois avant ma naissance, mais celui qui m'a adopté comme père n'a jamais été là. Mon vrai père, c'est ma mère. Qui doit être honoré? À qui l'on doit rendre honneur? Je prie que demain, mes enfants puissent me juger digne d'honneur. Que des géniteurs et des génitrices qui se comportent comme certains animaux les font. Ils font des enfants des autodidactes. Les anglophones disent des self-made men. Ceux qui se fabriquent eux-mêmes. J'ai lu ce passage qui m'a laissé glacé. Job, chapitre 39, versets 17 à 20. Et je prie qu'à Philadelphie, qu'il n'y ait pas cette sorte de parents. Écoutez ce que la Bible dit. Parlons de ces grands oiseaux appelés l'autruche. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et fait chauffer ceux-ci sur la poussière. Elle oublie que les pieds peuvent les écraser. Elle oublie qu'une bête des champs peut les fouler. Écoutez ce que la Bible ajoute au verset 19. L'autruche, elle est dure envers ses petits, comme s'il n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Job 39, 17 à 19. La version française courante dit du verset 19, avoir peiné pour rien les laisse indifférents. Ça, c'est l'autruche. La version parole de vie dit, elle s'est donné du mal pour rien et s'en moque. La version nouvelle Bible est seconde dit, peiner pour rien ne l'effraie pas. Mais écoutez ce que le verset 20 ajoute. Car Dieu lui a refusé la sagesse et ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Il semble l'autruche, quand elle a pondu les œufs, elle laisse, elle part. Y a-t-il des pères et des mères autruches qui ne se donnent pas la peine, qui ne se préoccupent pas? Ma prière est le vœu de mon cœur. Et que cette basse qualité des parents qui ne méritent rien, surtout pas, même pas un peu d'honneur, ne puissent pas être ici à Philadelphie. Être parent qui mérite l'honneur, cela va au-delà du fait du simple peu d'avoir travaillé physiquement avec les créatures pour qu'un enfant existe. Être parent qui mérite l'honneur, c'est principalement avoir pleinement joué son rôle des parents. Et le fait de jouer pleinement son rôle des parents, cela peut s'expliquer en 4 points. Avoir joué pleinement son rôle des parents. Premièrement, les parents qui méritent d'être honorés, c'est celui qui a été présent physiquement. Présent physiquement à côté de l'enfant, qui l'a accompagné, qui l'a porté dans ses bras, qui a eu à changer ses couches, qui a eu à chauffer l'eau pour lui ou pour elle le matin, qui a eu des soirs à venir vérifier si il sait ou elle s'est bien couverte. Est-ce que les battants des fenêtres ont été bien fermés, afin qu'elle ne soit pas piquée par les moustiques à la nuit. Celui qui a couru avec lui le matin à l'école. Celui qui s'est réveillé le matin en vérifiant. Vous savez, il n'y a pas de petites choses aussi qui intéressent les enfants que le fait d'être tenu par la main de papa. De l'accompagner juste à l'entrée de l'école. Au revoir mon petit chou. Sois sage. Il y a des enfants qui n'ont jamais connu de petites choses comme ça. Avoir été présent à l'école, à la sortie, quand l'enfant sort, il cherche à identifier du visage où il est. Et puis il voit ses papas, il court. Il y a des enfants qui n'ont jamais connu ça. Et à qui plus tard on veut réclamer de l'honneur. Qui a toujours été là. Quand j'ai fait pipi, où j'ai lâché, et il vient me changer. J'ai jamais oublié cette scène, j'étais tout petit à Bandal. Ma mère m'a dit, j'ai eu un peu difficile à m'identifier avec mon père. Je l'ai souvent dit ici. Je suis né en 64, dans un petit coin du Kasaï appelé Wimbonyama. Mon père était venu ici à Kinshasa chercher du travail. Et quand je suis né, mon père n'était pas là, c'est une année après. Juste avant que le président Mobutu ne prenne les pouvoirs. Et comme jusqu'à une année, je ne l'avais pas vu, ma mère me disait que c'était presque un étranger. Elle m'a dit petit à petit, cet homme s'est rapproché de moi. Et elle m'a toujours dit les tournants. Ça a été un jour de 69. 69 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? 33 ans. 43 et j'ai jamais oublié ça. J'ai jamais oublié alors qu'on habitait Nzobe numéro 42. C'est là où j'ai grandi de 69 à 76. Et les toilettes étaient en bas. Je prenais l'escalier pour venir me débarrasser vers 2h du matin parce que le ventre tournait. Mais j'arrivais pas à ouvrir la porte. Et ceux qui devaient sortir aux toilettes étaient sortis juste devant là. J'ai jamais oublié cette scène. Après autant d'années, je peux m'en souvenir. J'ai crié papa! Il m'a dit, c'est l'une des rares fois où je l'ai appelé ainsi. Et j'ai pu me souvenir, il est venu. Il a enlevé ses choses nauséabondes, mais j'ai pu voir la quantité, elle était grande. Ma mère m'a relaté, m'a rappelé cette histoire plus de 3 fois. Je lui ai dit, merci papa d'avoir touché ces choses. Cette saleté est venue de moi. Il semble que c'est l'une des premières fois où je l'ai vraiment serré dans mes bras. Il y a des gens qui nous réclament de l'honneur, mais qui n'ont rien semé dans notre vie. Qui n'ont jamais été là quand on a eu besoin d'eux. J'aimerais dire aux jeunes gens, ne jouez pas au sexe. Et puis vous niez. Un jeune homme, un petit garçon grandira avec des complexes quelque part. Allez-y aux États-Unis aujourd'hui. Il est prouvé dans le milieu des Noirs. Et 75% des jeunes noirs disent toujours my mad. Parce qu'ils connaissent pas papa. complexé. Vous n'avez aucune idée des petites choses que cela représente. Quand certains reviennent des vacances, ils disent, on était avec papa et maman. Et ils ne peuvent pas parler de papa. Parce que toi, quelque part, t'es pas vain quelque part. Et lui, il a toutes ces choses. Et tu iras lui présenter ce verset. Enfin, honorez vos parents. C'est le premier commandement avec une promesse. Roland Dallot a prêché sur ça. Avoir été là la proclamation, avoir été là lors des anniversaires, avoir été présent. Il est étonnant de voir même le grand Joseph devenu premier ministre en Égypte. Il parle à les chansons de sa condition. Et puis, on peut voir sa souffrance. Genèse 40, verset 15, il dit à les chansons, j'ai été enlevé du pays de Hébreu. Une autre version dit, j'ai été déraciné. Une autre version encore que j'ai lu, j'ai été arraché avec violence. Et les contextes montrent qu'il regrettait la maison familiale. Mais spécialement son père. Cet homme qui lui donnait cette tunique de plusieurs couleurs. Cette personne qui le valorisait. Il est regretté. Et il a été tellement marqué par les souvenirs de son père que dans Genèse 40, 43, verset 27 à 28, alors qu'il ne s'est même pas encore identifié à ses frères, mais déjà il les a reconnus. Écoutez la question qu'il leur pose. Votre vieux père dont vous avez parlé, est-il donc encore en vie? Est-il en bonne santé? Et pourtant, il n'a pas encore dit qu'il était leur frère. Il est lié. Il a les souvenirs de cet homme. Et ses frères vont les rassurer. Ils lui répondirent, ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Et il vit encore. Je prie qu'à Philadelphie, il y ait des pères et des mères qui sont présents. Deuxième chose qui caractérise un parent, un père ou une mère appelé à être honoré, c'est avoir joué le rôle des protecteurs et des remparts. Protection à la fois physique, protection émotionnelle. Dans Matthieu chapitre 2, verset 13 à 14, la Bible parle de l'avertissement donné à Joseph concernant les projets d'Hérode, de tuer le petit enfant Jésus. Et j'aime ce que la Bible dit. Joseph s'éleva, prit des nuits le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte, protecteur. Et ces rôles de protecteur, les enfants peuvent les vivre de deux manières. Les enfants peuvent les vivre eux-mêmes, par les souvenirs qu'ils peuvent garder. Mais ces rôles de protecteur, les enfants peuvent les connaître en ayant des récits de ce que vous avez fait pour eux. On parle de cette jeune fille qui, en grandissant, a commencé à se moquer de sa mère. Elle était même complexée d'avoir une telle mère qui était brûlée. Et la tête est juste aux pieds. Vous savez, quand on commence à avoir un certain âge, on veut s'identifier à ce qui nous valorise. Sa maman lui dit, je vais t'accompagner à l'école. Il dit, non, on n'y vient pas. Parce que quand tu viens, on se moque de moi. On dit, regarde le visage de ta mère. Elle est comme un singe que l'on veut vendre au marché. Un kakubaïta. Et sa mère lui dira, demande à papa, il t'expliquera pourquoi je suis comme ça. Papa appellera cette jeune fille et dit, tu sais, un jour on t'avait laissé avec personne à la maison. Maman devait courir pour aller chercher de l'eau. Et en rentrant, la case s'est enflammée. Et tu étais seul, tu avais à peine 8 mois. Et alors que la case prenait feu, on a dit, il ne faut pas y entrer. Elle a dit, je ne peux pas laisser mon enfant. Tout le monde l'a arrêté, elle est rentrée, elle a dit, je ne peux pas rester vivante en laissant ma fille. Et quand elle est entrée, elle t'a prise, elle t'a placée là, empêchant que les flammes puissent t'atteindre. Si tu es intact, c'est parce qu'elle, elle est comme. Elle a tout fait pour que rien ne t'atteigne. Et cette fille est allée dire, maman, tu m'accompagneras toujours à l'école. Tu viendras toujours à l'école. Des fois, il y a des choses que nous-mêmes, nous ne savons pas, mais quand on nous les relate, ça nous encourage. On peut te dire, ton père courait avec toi la nuit. Un jour, tu étais entre la vie et la mort. C'est lui qui a fait telle chose. Et ce sont des choses qui émotionnellement vous attachent. Combien de fois, comme j'ai dit, des enfants qui ont grandi entre les mains des grands-mamans ont plus vécu la protection avec grand-maman. C'est elle qui s'est battue, c'est elle qui a fait ceci. Mais géniteur ou génitrice, absent. Il n'y a pas un lien émotionnel. Comment puis-je l'honorer? Comment puis-je sentir comme s'il y a un cordon ombilical entre nous? L'enfant a besoin de quelqu'un, quand il a mal au ventre, il peut dire « j'ai mal au ventre ». Des fois, tu ne vas rien faire, tu vas simplement rassurer, ça ne fait rien. Ou tu pries. Que les enfants qui ont mal au ventre, ça commence et ça finit, il n'y a personne à qui parler. J'ai mal aux dents. J'ai un tel problème. Personne avec qui partager. Il a fait un cauchemar. Il reste avec. Il interprète lui-même. Il intercède lui-même. Il chasse lui-même les démons. Mais d'autres ont des gens qui peuvent s'approcher. Prier avec Seigneur. Que tout ce qui est venu déranger ma fille ou mon fils la nuit ne puisse plus être nommé. Dit Amen. Et le petit dit Amen. Il sent qu'il y a quelqu'un à ses côtés. Dans nous des parents qui se battent pour leurs enfants. Dans l'évangile de Luc au chapitre 9, versets 38 à 39, la Bible dit, voici du milieu de la foule, un homme s'écria, Maître, je t'ai pris, porte les regards sur mon fils. Un esprit les saisit, les jette dans l'eau. C'est un père qui va crier, cherchant la guérison de son fils. Un tel homme, on ne peut que l'honorer. Dans Marc chapitre 7, versets 25 à 30, la Bible parle de la femme syrophénicienne. La Bible dit, elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Qui lui a dit, même la nourriture des enfants, faut pas les donner aux chiens. Elle est prête à dire, même les chiens mangent des miettes. Parce qu'elle désirait coûte que coûte que la condition de son enfant change. De Samuel chapitre 12, verset 16. La Bible est parlant de David, quand l'enfant qu'il avait eu avec Bathsheba est tombé malade. La Bible dit, il pria et il gêna. On dit encore, il se coucha par terre. L'enfant voit cela. Et cela vous attache. Et vous attache émotionnellement. Que des gens avec lesquels nous n'avons pas un cordon ombilical. Nous portons leur nom. Mais nous n'avons rien en commun. Troisième chose qui fait un vrai parent, un vrai papa, une vraie maman, que l'on doit honorer, avoir joué le rôle de pourvoyeur pour sa famille. C'est-à-dire assumer ses responsabilités. Les enfants veulent voir ou apprendre qu'il y a eu un parent qui s'est battu pour eux, pour leur nourriture, pour leur habillement, pour leur scolarité, pour leur bien-être. Ils veulent voir cela. Des fois, ils ne vous disent rien, mais ils savent que vous vous tracassez. Ils savent que vous vous coupez en mille. Des fois, ils présentent des besoins, ils ont l'assurance que ce sont des caprices. Mais au moins, ils ont quelqu'un à qui présenter cela. Après, on peut manger des pizzas. Ils t'ont entendu dire avant, je suis en train de chercher de voir comment on va acheter les carburants demain. Mais pour leur faire plaisir, tu les fais. Et des gens qui n'osent pas, les enfants qui n'osent pas présenter leurs besoins. Et d'autres qui n'ont personne. Des enfants qui savent que papa s'est bat. J'ai jamais oublié cette scène, je devais avoir 12 ans, j'étudiais à l'Athénée de Kalina. Je l'ai souvent dit ici, mon père, c'est depuis que je l'ai connu, il a toujours été directeur d'école primaire, pas de promotion. J'ai surpris la conversation entre mon père et ma mère. Papa disait, Cécile, c'est le prénom de ma mère, je ne sais comment faire pour payer l'abonnement scolaire à Roland et à Rémi. Je suis obligé d'aller chaque jour à pied au travail. Il était directeur à l'atelier de la Gombe. Nous, on était à EP4. Et lui, il était à EP2. Je me souviens, j'étais dans le bus scolaire, j'ai vu mon père à pied. Et les amis se sont moqués. Roland, ton père est dans la ligne 11. Mais je savais qu'il marchait à pied pour que moi, je sois dans le bus. Quand j'ai commencé à voir mes enfants, je suis allé les voir. J'ai dit, papa, j'arrive pas à expliquer. Je connais un peu tes salaires. Quand ça allait très haut, ça devait faire 150 dollars. Au jour d'aujourd'hui, mon père touche à 32 ou 34 000 francs, pas plus. Je lui dis, comment tu as fait pour qu'on étudie dans les bonnes écoles? Et surtout quand à un moment, nous quatre, on devait étudier. Collège Boboto, Athénée, comment tu as fait? Les larmes ont coulé de ses yeux, dit Roland, je ne sais pas. Un tel homme, on ne peut que l'honorer. C'est lui qui se bat pour vous. C'est lui qui fait tout. On ne peut que l'honorer. On ne peut qu'honorer cette maman qui sort le matin chercher du pain afin que ses enfants aillent à l'école. On ne peut qu'honorer ce papa qui va faire les lavandiers quelque part pour arrondir les angles afin que ses enfants puissent s'habiller. On ne peut qu'honorer de tels gens. Parents, sachez que quelquefois nous voyons, nous ne vous disons pas tout, mais nous ne voyons pas moins. Quelquefois nous nous posons la question, comment vous faire pour nous placer à l'université alors qu'on est à 3 et à 4. Ils étudient les 4 à l'UPC, 540 dollars à payer. Et nous sommes à 5. Et ils savent que cet homme ne travaille pas. Ils savent que cette femme, elle est veuve. Mais ils se posent la question, comment elle fait? Parents, nous voudrions vous dire merci. Un pourvoyeur. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14, la Bible dit, ce n'est pas en effet aux enfants amassés pour leurs parents, mais c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Donne-nous des parents responsables. Pas des parents irresponsables qui n'ont laissé rien à la maison, mais qui avant d'entrer au Texas-Afrique, dit, maman, tu es langue milanzée. Un gros pain. Tout noir dedans. Parce que lui, il aime non pas le beurre ou la margarine. Tiens-moi en bas, maman. À la maison, il n'a rien laissé. Donne-nous de ceux qui disent, moi, je préfère manquer, mais que ses enfants puissent avoir quelque chose. Dans Proverbe 31, verset 28, la Bible nous montre des enfants qui louent leur maman. Ils louent cette femme vertueuse. La Bible dit, ses enfants leur font des compliments. Ça, c'est la version française courante. Ses enfants lui font des compliments devant tout le monde. Une autre version dit, ses enfants viennent les féliciter. Pourquoi ses enfants les félicitent? Écoutez ce que les versets 14, 16 et puis 24 disent de cette femme. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle s'élève lorsqu'il fait encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Elle pense à un champ et la pierre. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Mais j'aime surtout le verset 24. Elle fait des chemises et les vend. Et livre des ceintures aux marchands. Une autre version dit, elle coud des vêtements pour les vendre. Elle fait des ceintures et les vend aux commerçants qui passent. Cela veut dire, elle s'expose. J'ai en mémoire en grandissant, quand nos parents avaient difficile à mettre suffisamment d'argent ensemble pour que nous puissions étudier. Ma mère a commencé à faire des beignets. Je vois, ces images ne peuvent pas partir de ma mémoire. Quand chaque fois vers 18 heures, elle faisait la pâte. Et vers 3 heures, elle s'est réveillée déjà pour préparer les beignets. À 5h30, alors que nous on s'est levé, elle allait au coin déjà pour attraper les premiers clients. Et le soir, quand on rentrait, on trouvait à manger. On savait d'où ça venait. Donne-nous des gens qui se battent pour nous. Et de telles personnes, on ne peut, on ne doit les honorer. En Timothée 5, verset 8 dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout ceux de sa maison, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Que des parents sapeurs tirés à huit épingles. Et des enfants qui sont habillés comme des cantonniers. Et des géniteurs qu'on loue à tel ou tel autre endroit. Mais le petit enfant qu'il a eu à Manueka marche nu, sans rien, sans soin. J'aimerais dire à quelqu'un, ton péché t'atteindra. Quatrième chose qui fait que l'on puisse être ses parents, ses pères, ses pères ou cette mère que l'on honore, c'est avoir transmis des connaissances à l'enfant. Avoir communiqué des connaissances. Ces connaissances, on les transmet de trois manières. La première manière, en étant un modèle et un exemple. C'est-à-dire les parents enseignent d'abord la bouche fermée par ce qu'ils sont et par ce qu'ils font et que les enfants voient. Les enfants ont besoin de modèles pour dire je ferai comme. J'ai appris la notion du temps parce que j'ai vu un père pointu en matière de temps. Il y a des choses que mon père ne m'a pas dit, il y a des choses qu'il m'a communiquées. Je me souviens quand j'allais chez lui à la tenue de la Gombe et que je trouvais comment on dit en français? La queue, les gens qui attendent. Je veux rentrer d'une. Roland, pourquoi tu entres? Tu es plus important que ces gens. Va t'aligner. Je disais, mais je suis ton fils. Il dit, va t'aligner. Ces gens-là sont là depuis 6 heures. Et toi, tu viens en retard, tu veux que je te serre en premier. Va t'aligner. Il m'a rien dit, mais il m'a appris. Il y a des choses que les enfants veulent voir. Mais d'autres n'ont eu personne. Dans Jean chapitre 13, verset 13 à 15, Christ comme un père pose des actes et dit à ses disciples, vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je les suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Il ajoutera au verset 15, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je n'ai pas ouvert la bouche, j'ai posé des actes. Que des parents qui ont manqué de donner aux enfants l'occasion de voir et de faire. C'est des enfants qui ne seront jamais, parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un être à leurs yeux. Trop occupés. Deuxième façon, de transmettre des connaissances en ouvrant la bouche. Et cela aussi de deux manières. Premièrement, en prenant soi-même l'initiative. Et deuxièmement, en répondant aux préoccupations des enfants. Dans Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7 et 21, 20 à 21, Dieu dit à Israël, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. C'est-à-dire, on ne peut donner que ce que l'on a. Mais la chute au verset 7, tu les inculqueras à tes enfants. Pour que ces enfants puissent les avoir, quelqu'un doit en parler. Le terme inculqué veut dire donner en insistant. Donner des coups plusieurs fois. Et s'il vous plaît, ne sont jamais des générations spontanées qui viennent s'inviter dans la bouche de nos enfants. Quelqu'un doit les planter. Et quelqu'un doit les planter quelquefois au prix des corrections. Roland, on ne tend pas la main aux personnes âgées. Demain, Roland! Puis après, j'apprends. On peut m'apprécier de qu'est-ce qu'il est poli. Qu'est-ce qu'il est bien éduqué, c'est jamais venu du ciel. Quelqu'un a placé cela. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est des enfants qui ne sont pas parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un pour leur parler. Personne pour communiquer des choses. Mais j'aime surtout le verset 20 à 21. Lorsque ton fils te demandera un jour, qu'est-ce que signifie ces préceptes? Qu'est-ce que signifie ces lois et ces ordonnances? Le verset 21 dit, tu diras. Combien de fois n'ai-je pas été confronté depuis qu'elles sont petites? Papa, qu'est-ce que cela ça veut dire? Papa, ça veut dire quoi? Je vois un jour, je vois là qui vient, papa, anticonstitutionnel, ça veut dire quoi? Je suis obligé de trouver les mots qu'il faut pour expliquer cela. Qu'il y a des enfants qui se posent des questions et qui n'ont personne. Quand tes enfants te demanderont, nos enfants sont devenus des autodidactes. Qui se débrouillent, qui apprennent eux-mêmes, et de quelle manière? Troisième manière, et communiquer des connaissances, c'est avoir pris le temps avec patience de combattre les mal qui étaient en eux. Un peu comme un minerai que l'on retire des terres, avoir pris le temps de séparer les minerais pur des scories. Et des enfants qui grandissent avec des scories. Et des enfants qui grandissent avec des imperfections. Parce qu'ils ont ou elles ont manqué quelqu'un pour enlever les scories. Pour enlever les mauvaises choses. Papa absent, maman absente, maman occupée. Proverbe 22, verset 15 dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Mais que de folies qui sont restées. Parce qu'il a manqué de verges pour corriger. Il y a des choses que mon père et ma mère faisaient, je n'étais pas toujours d'accord avec eux. Je les boudais. Et quand j'ai grandi, je suis retourné plus d'une fois leur dire merci. Papa, merci d'avoir été dur. Maman, merci d'avoir été exigeant. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils ne pouvaient que comprendre. J'avais 8 ans, j'avais 10 ans. Je ne pouvais pas avoir la compréhension des choses que j'ai aujourd'hui. Ils ont pris patience, enlevé la folie. La version Nouvelle Bible et Seconde dit ceci. L'imbécilité est attachée au cœur de l'enfant. C'est les bâtons de la correction qui l'éloignera de lui. Proverbe 23, versets 13 et 14, abondent dans le même sens. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu les frappes de la verge, il ne mourra point. Et en les frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Que des enfants qui vont dans le séjour des morts. Parce qu'il n'y a personne pour leur parler. Non, tu es tout jeune. Je ne veux pas que tu regardes ce genre de film. Ça va te conditionner, ça va te pousser à ceci. Les enfants autodidactes, abandonnés à eux-mêmes. Maman se débrouille, papa se débrouille. Allez, 23 heures, il est là devant la télé, Canal+. Personne pour lui dire, ça on ne regarde pas. Et on sera étonné à 13 ans, 14 ans, elle a ses premières expériences sexuelles. Parce qu'il n'y avait personne pour parler. J'ai souvent relaté cette histoire ici. Ce jeune homme de 17 ans, spirituel, rempli du Saint-Esprit, est mal éduqué. On lui a jamais appris que la nourriture à table ne fouille jamais. On peut aller se servir 3-4 fois. On nous invite à manger quelque part. Il nous voit revenir avec 3-4 cuillerées de riz et puis un morceau de riz. Il passe. Il nous a dit, il n'y a pas de riz. Et lui-même utilise les termes. Et quand il est rentré, il dit, j'ai une montagne de riz. Assaisonné de pondou entouré de viande. Clôturé. Mais est-ce qu'on va les blâmer? Personne ne lui a appris. Personne n'a enlevé cette folie. Personne ne lui a appris qu'on dit aux aînés, s'il vous plaît, que des donneurs de leçons vous retrouvent à table, ils demandent aux grands, pesant la mungwa. On lui a jamais appris, s'il vous plaît, puis-je avoir les selles? Jamais. Je me dis, ces choses ne sont jamais des générations spontanées. Ils viendront comme ça, puis pas. Ça atterrit dans la bouche de cet enfant. Alors que vous vous êtes tiré à quatre pins, un impoli est en train de grandir. C'est d'abord un impoli minuscule. Et qui deviendra un impoli majuscule. Parce que vous n'avez pas joué votre rôle. Je peur pour ma nation. Je peur pour notre pays. Un soir, j'étais allé visiter une tante et j'ai passé à côté du grand marché. J'ai vu une scène qui m'a sidéré. J'ai vu un groupe de jeunes gens à 18h05. Ils sont en train de faire monter un drapeau au grand marché. Il dit, à 18h, le gouvernement va conduire un bourg ici, là. Il y a mis son débat. Ils ont entre 10, 12, 13 ans. Et les gens disent, à partir de 7h, malheur à celui qui passe là. Ils ont un couteau, ils sont prêts à tout. Mais ils ont sûrement des parents. Et dis-je, des géniteurs. Et des génitrices. Et en terminant ce jour, j'aimerais dire une vérité essentielle, que l'honneur que les enfants doivent aux parents, c'est mérite. La qualité de vie des parents, en général, et surtout par ce qu'ils font et ce qu'ils sont, influence. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 13, l'apôtre Paul dit, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Ils s'acquièrent un rang honorable. C'est rendu, on ne l'a pas de facto. Il y a des choses à faire pour acquérir cela. Vous voulez être honoré? Il y a des choses à faire. Vous voulez être valorisé? Il y a des choses qu'il nous faut faire. Dans 1 Roi chapitre 1er, verset 5 au verset 9, la Bible nous relate une histoire triste très triste. On peut dire que la dernière douleur de David, les derniers affronts, les derniers déshonneurs que David subit, parmi tant d'autres qu'il a connus, et je préfère insister, comme moisson, fruit de son irresponsabilité. Comme pour la révolte d'Absalom, ce sont les choses qui lui arrivent apparemment brusquement, à l'improviste, de manière inattendue, que l'on peut prendre comme des générations spontanées, mais qui sont une moisson. Déjà son fils est révolte. Adonijah décide de se faire roi à la place de David. Plutôt à la place d'Absalom, plutôt de Salomon que David avait choisi. Révolte. Il s'impose. Il prend des gens, il dit c'est moi. Et tout le monde sait que le fils défie son père. Il ne l'honore pas. Il ne le valorise pas. De telle sorte que le prophète Nathan appela à courir chez Bathsheba en disant, si tu ne fais rien, le roi, ça ne sera pas Salomon, mais ça sera plutôt Adonijah. David est sûrement humilié parce que tout le monde sent et réalise qu'il manque d'autorité. Tout le monde sent et réalise qu'il ne contrôle rien. Mais ça, c'est une moisson. J'en ai parlé plus d'une fois ici. David a connu une vie assez mouvementée. Si sa vie peut avoir plusieurs tranches, on peut au grand maximum en faire trois tranches. La première tranche, David est d'abord un jeune père irresponsable, absent au moment de la naissance de ses premiers enfants. Il a entre 18 et 30 ans. 2 Samuel chapitre 3 verset 2 à 5 nous présente les 6 enfants qu'il a eus quand il était à Hébron. C'est un mercenaire. C'est un chef de troupes. Et si vous lisez les contextes, il restait jamais à un endroit. Il avait un quartier général où il bougeait de temps en temps. Je m'étonne même comment il a eu le temps de faire des enfants. Il venait, il s'attachait à l'une de ses femmes, il se retrouvait enceinte et puis il repartait. Et ses enfants grandissaient sans un modèle, sans quelqu'un pour crier, sans quelqu'un pour faire quelque chose, sans quelqu'un pour dire ça tu feras et ça tu ne feras pas. Deuxième tranche de la vie de David, c'est entre 30 et 50 ans. D'autres disent entre 30 et 45 ans. Les premières années de son règne, il arrive dans un contexte difficile. Il doit faire asseoir un royaume sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique. Lisez, il fait guerre à gauche, guerre à droite. C'est un homme hyper occupé. Occupé à se battre. Occupé à se rendre fort. David a réussi comme homme à l'extérieur et il a échoué comme père de famille. J'aimerais pas seulement être un bon pasteur. J'aimerais aussi être un bon mari. J'aimerais aussi être un bon père pour mes enfants. J'aimerais pas seulement être apprécié à l'extérieur. Vous savez, il y a des rôles où on peut se faire remplacer. Et pasteur, je ne peux pas être là, j'ai des assistants. Mais en tant que père, on n'a pas de suppléants. On n'a pas d'assistant. C'est pour ça que j'aime dire à l'église, il y a un temps pour que je m'occupe des brebis, mais il y a un temps aussi pour que je m'occupe de ma famille. Un jour, je chassais un jeune homme avec onction et virulence. Je m'étais rendu compte que j'avais pas beaucoup de temps pour ma famille. J'ai dit non, ce samedi, je ne sors pas. On habitait encore à Lupin. J'ai appelé mes 4 filles. La dernière ne jouait pas, elle n'était pas encore si éveillée. Avec les 3, on jouait au Scrabble. Et j'ai vu leur joie. Et juste à peine on commençait, 30 minutes après, je vois un jeune homme rentrer avec une grosse Bible de Jérusalem. Pasteur, j'ai découvert des révélations, des secrets des cornes. Je lui ai dit, sors. Mais pasteur, tu laisses les choses spirituelles pour des banalités. Je lui ai dit, sors. Sinon tu découvriras que le pasteur a des restes du judo et du karaté. Un papa suppléant, ça n'existe pas. J'ai dit, si tu veux me retrouver, retrouve-moi mardi. Pasteur, c'est tellement pressant. Je dis, le pressant maintenant, c'est ça. Rester avec, manger avec, rigoler avec, les accompagner à leur jeu, être aux réunions des parents, aller retirer leur bulletin si l'on peut. de petites choses, mais qui vous rapprochent. Et David, lui, connaissait pas ça. Adonijah a grandi comme ça. Un père qui était appelé à courir à gauche et à droite. On n'est pas étonné qu'au soir de la vie, celui qui devait honorer son père ne l'honore pas. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et la troisième tranche de la vie de David, c'était un père jouisseur. De Samuel 11, 1 à 27 nous en parle. Un père qui non seulement s'amusa avec des femmes, mais dont tous les enfants étaient au courant de sa bêtise. Il a pris la femme d'autrui. Il est allé avec. Et toute une nation a pris cela. Quand Adonijah jouait avec ses amis, les gens disaient, ah, ils n'ont pas pris la vie, ils n'ont pas le rôle à moi. Un jeune homme me disait, et comble, c'est que les parents ne savent pas les punir. Il n'y a que les parents qui ont la possibilité de punir. Ils disent, n'as-tu pas fait un papa film? N'a fou comme ici, vous m'en amenez ici, brique. Il vous attire la honte. Il y a des parents qui l'ont craint, mais que l'on ne respecte pas. Mais si les enfants peuvent vous respecter, vous avez gagné les combats. Et Adonijah n'avait aucun respect pour son père. Les contextes montrent que quand il joue avec ses amis, on lui rappelait. Quand on voulait les toucher, ah, Longwana! On a un bois. Est-ce que tu entends la minute qui commence à aller? Et Adonijah entendait ça. Quand il voyait cet homme parlant bien, aucun respect. Je veux que mes enfants me respectent. Je veux que mes enfants puissent dire, c'est un homme, un vrai. C'est un monsieur, un vrai. C'est une dame, une vraie. Le message de ce matin avait quadruple objectif. Le premier objectif, c'est un but curatif. Guérir un mal qui soit s'installe déjà, ou alors est en train de s'installer. Et ce message peut servir de correctif, de réajustement. Deuxième but de ce message, il est préventif. Et là, il s'adresse aux jeunes gens qui sont soit en train de devenir parents ou qui les seront demain. La Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. On a tellement d'exemples devant nos yeux qu'ils n'auront pas le droit de répéter les mêmes erreurs. Et troisième but, c'est l'enseignement de ce jour. C'est un but d'encouragement. Encourager les hommes et les femmes qui sont bons parents à les rester, à ne pas se relâcher. Continuez dans les bons. Même si vous êtes seul, même si on est dans une société de démissionnaires, continuez à l'être. Et le quatrième but, c'est amener à la repentance, même de manière tardive. Je sais qu'alors que je parle, certains ont en mémoire les dégâts qu'ils ont causés, pour lesquels humainement parlant, ils savent comment corriger cela. Il y a 20 ans, j'ai eu un enfant que j'ai abandonné à Kasumbalesi. Il y a 25 ans, je suis allé en mission en Mbandaka. Et j'ai laissé le petit Ilondo. Il y a 18 ans, je suis allé en mission à Mouine du tout. J'ai laissé le petit Kabatumbi. Je ne sais comment corriger cela. Mais j'aimerais vous dire en ce jour, nous avons ici le Dieu qui s'est retourné dans le passé et faire ce que nous ne pouvons pas faire. J'ai relaté cette histoire plus d'une fois. Mon jeune frère est pasteur et on se retrouve en 94. Notre pasteur, le pasteur Vernon, m'oblige de le mettre sous discipline, de le suspendre parce qu'il s'était mal comporté. Et je l'appelle au bureau, je lui dis, Rémi, je suis suspendu de ce jour à cause de ça, ça. Et juste avant qu'il quitte mon bureau, il a dit, Ya Roland, est-ce que je peux prier? Je lui dis, vas-y, prie. Il a fait l'une des plus belles prières que j'ai jamais oubliées. Il a dit, Seigneur, comme Pierre, je viens de couper une oreille et je ne sais comment la remettre. Mais toi, tu es capable de remettre les oreilles que nous, on a coupées. Il est possible que quand j'ai parlé, tu as vu les dégâts que tu as eu à faire. Tu as coupé une oreille. Tu ne sais comment remettre cela. Tout à l'heure, je lancerai l'appel, tu prendras l'oreille, tu diras, Seigneur, moi, je l'ai coupé. Et lui, il a la capacité de remettre les oreilles que nous, on a coupées, sans qu'il y ait des séquelles. J'aimerais nous inviter, et ici à Lisanga, baisser nos têtes. Je vais lancer ce triple appel. Alors que la servante de Dieu va nous chanter, et Dieu m'a mis à cœur, elle va prier à la fin. Y a-t-il un homme, y a-t-il une femme qui veut dire, pasteur, prie pour moi. J'ai commis des erreurs dans ma vie. Un enfant, quelque part, a manqué la présence d'un père, d'une mère. Quand je parlais, j'entends quelqu'un dire dans son cœur, j'aurais voulu entendre ces choses il y a 15 ans. J'aurais voulu entendre ces choses il y a 20 ans. J'aurais voulu entendre ces choses il y a 25 ans. Certaines choses que j'ai eu à faire, j'aurais pu les éviter. Quelqu'un en ces jours est en train de dire, un enfant murmure, un enfant a grandi ou grandit avec des complexes. Un enfant ne pourra jamais m'honorer, parce qu'honorable je ne suis pas et je ne peux l'être. Et vous voulez dire deux choses, Seigneur, pardonne-moi, mais Seigneur, toi les réparateurs de brèches, va corriger ce que je ne peux corriger. Tout à l'heure, alors que les chants seront en train de jouer, vous qui faites partie de cette première catégorie, et ici à Lisanga, ici vous allez vous avancer, et à Lisanga aussi vous allez vous avancer, quelqu'un va vous aider à prier. Vous qui voulez dire, Seigneur, prends cette oreille, je l'ai coupée, je ne sais comment remettre. Alors que les chants seront en train de jouer tout à l'heure. Le deuxième appel que je me relançais, c'est pour ceux qui veulent réajuster leur comportement. À l'aide de cette parole, vous êtes rendu compte que quelque part, vous faites, mais vous ne faites pas suffisamment bien. Est-ce que vous êtes toujours là présent? Est-ce que vous protégez? Est-ce que vous êtes les pourvoyeurs? Est-ce que vous êtes celui ou celle qui transmet des connaissances? Et vous le faites de la bonne manière, et vous le dites, je le fais, mais je m'irai encore mieux faire. À vous, je demanderai non pas de vous avancer, mais de vous lever simplement. Vous qui faites déjà, mais qui voulait dire, j'aimerais mieux faire encore. La troisième catégorie, ce sont des hommes et des femmes qui font bien. Qui font bien. Et qui veulent dire, Seigneur, merci d'avoir permis que je fasse bien. Et aide-moi à ne pas me relâcher, à continuer encore à bien faire. Il y a un quatrième et dernier appel qui me monte à cœur. Des jeunes gens qui ne sont pas encore père et mère et qui veulent dire, pasteur, prie pour nous. Demain, j'aimerais moissonner l'honneur. Et pour que je le fasse, il y a des choses que je dois s'aimer. Je ne veux pas tomber dans les travers des aînés. Vous qui voulez comme être vacciné et dire au Seigneur, je ne voudrais pas tomber dans ces travers. Et ici à Lisanga, vous allez aussi vous lever. Alors que certains continuent d'avancer, n'hésitez pas à le faire. C'est encore possible. Alléluia. C'est encore possible. Les dégâts ont été faits, mais c'est encore possible. Ah, je le sens dans mon cœur de lancer cet autre appel. Il y a des enfants qui en veulent à leurs parents, qui n'ont pas été là. Tu as grandi avec des complexes que tu traînes jusqu'à aujourd'hui. Des blessures dans ton âme. Papa qui n'a jamais été là. Quelquefois, il t'arrive de croire que tu as pardonné. Mais quelquefois, tu te rends compte que la plaie est encore là. Et tu veux dire, pasteur, prie pour moi. J'aimerais que cette boule, j'aimerais que cette chose me quitte. À vous aussi, je vous demanderai de vous avancer.
Possible de vivre la gloire passée. De reprendre force évitant la mal cachée.
Je demande parce qu'il n'a pas été là.
Va fleurir.
Je demande parce qu'elle n'a pas été là.
Et voir les blessures.
J'ai commis certaines erreurs sur certaines erreurs sur le chemin de ma vie parce qu'il n'a pas été là.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.